Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau par Honoré de Balzac. Deuxième partie. César aux prises avec le malheur. 8 jours après cette fête, dernière flammèche du feu de paille d'une prospérité de 18 années près de s'éteindre, César regardait les passants à travers les glaces de sa boutique, en songeant à l'étendue de ses affaires qu'il trouvait lourdes. Jusqu'alors, tout avait été simple dans sa vie. Il fabriquait et vendait ou achetait pour revendre. Aujourd'hui, l'affaire des terrains, son intérêt dans la maison à Popinot et compagnie, le remboursement de 160 000 francs jetés sur la place et qui allait nécessiter ou des trafics d'effets qui déplairaient à sa femme ou des succès inouïs chez Popinot, effrayait ce pauvre homme par la multiplicité des idées. Il se sentait dans la main plus de pelotons de fil qu'il n'en pouvait tenir. Comment Anselme gouvernerait-il sa barque? Birotteau traitait Popinot comme un professeur de rhétorique traite un élève. Il se défiait de ses moyens et regrettait de n'être pas derrière lui. Le coup de pied qu'il lui avait allongé pour le faire taire chez Vauquelin explique les craintes que le jeune négociant inspirait au parfumeur. Birotteau se gardait bien de se laisser deviner par sa femme, par sa fille ou par son commis. Mais il était alors comme un simple canotier de la Seine à qui, par hasard, un ministre aurait donné le commandement d'une frégate. Ses pensées formaient comme un brouillard dans son intelligence peu propre à la méditation, et il restait debout cherchant à y voir clair. En ce moment, apparut dans la rue une figure pour laquelle il éprouvait une violente antipathie, et qui était celle de son deuxième propriétaire, le petit Molineux. Tout le monde a fait de ses rêves pleins d'événements qui représentent une vie entière et où revient souvent un être fantastique chargé de mauvaises commissions, le traître de la pièce. Molineux semblait à Birotteau chargé par le hasard d'un rôle analogue dans sa vie. Cette figure avait grimacé diaboliquement au milieu de la fête en regardant les somptuosités d'un œil haineux. En le revoyant, César se souvint d'autant plus des impressions que lui avait causées ce petit pingre, un mot de son vocabulaire, que Molineux lui fit éprouver une nouvelle répulsion en se montrant soudain au milieu de sa rêverie. « Monsieur, dit le petit homme de sa voix atrocement anodine, nous avons bâclé si lestement les choses que vous avez oublié d'approuver l'écriture sur notre petit sous-sein. » Birotteau prit le bail pour réparer l'oubli. L'architecte entra, salua le parfumeur et tourna d'un air diplomatique autour de lui. « Monsieur, lui dit-il enfin à l'oreille, vous savez combien les commencements d'un métier sont difficiles. Vous êtes content de moi, vous m'obligeriez beaucoup en me comptant mes honoraires. » Birotteau, qui s'était dégarni en donnant son portefeuille et son argent comptant, dit à Célestin de faire un effet de 2 000 francs à 3 mois d'échéance et de préparer une quittance. « J'ai été bien heureux que vous prissiez à votre compte le terme du voisin, dit Molineux d'un air sournoisement goguenard. « Mon portier est venu me prévenir ce matin que le juge de paix apposait les scellés par suite de la disparition du sœur Cairon. »« Pourvu que je ne sois pas pincé de 5 000 francs, » pensa Birotteau. « Il passait pour très bien faire ses affaires, » dit Lourdois qui venait d'entrer pour remettre son mémoire au parfumeur. « Un commerçant n'est à l'abri des revers que quand il est retiré, » dit le petit Molineux, en pliant son acte avec une minutieuse régularité. L'architecte examina ce petit vieux avec le plaisir que tout artiste éprouve en voyant une caricature qui confirme ses opinions sur les bourgeois. « Quand on a la tête sous un parapluie, on pense généralement qu'elle est à couvert s'il pleut, » dit l'architecte. Molineux étudia beaucoup plus les moustaches et la royale que la figure de l'architecte en le regardant, et il le méprisa tout autant que M. Grindot le méprisait. Puis il resta pour lui donner un coup de griffe en sortant. À force de vivre avec ses chats, Molineux avait dans sa manière, comme dans ses yeux, quelque chose de la race féline. En ce moment, Ragon et Pillerault entrèrent. « Nous avons parlé de notre affaire au juge, » dit Ragon à l'oreille de César. « Il prétend que, dans une spéculation de ce genre, il nous faudrait une quittance des vendeurs et réaliser les actes afin d'être tous réellement propriétaires indivis. »« Ah, vous faites l'affaire de la Madeleine, » dit Lourdois. « On en parle, il y aura des maisons à construire. » Le peintre qui venait se faire promptement régler trouva son intérêt à ne pas presser le parfumeur. « Je vous ai remis mon mémoire à cause de la fin de l'année, » dit-il à l'oreille de César. « Je n'ai besoin de rien. »« Eh bien, qu'as-tu, César ? » dit Pirou. en remarquant la surprise de son neveu qui, stupéfait par la vue du mémoire, ne répondait ni à Ragon ni à Lourdois. « Ah, une vétille ! J'ai pris 5 000 francs d'effet au marchand de parapluies, mon voisin, qui fait faillite. S'il m'avait donné des valeurs mauvaises, je serais gobé comme un niais. » « Il y a pourtant longtemps que je vous l'ai dit, s'écria Ragon. Celui qui se noie s'accrocherait à la jambe de son père pour se sauver, et il le noie avec lui. J'en ai tant observé de faillites. On n'est pas précisément un fripon au commencement du désastre, mais on le devient par nécessité. »« C'est vrai, dit Peyrou. Ah, si j'arrive jamais à la chambre des députés, ou si j'ai quelque influence dans le gouvernement, dit Birotteau se dressant sur ses pointes et retombant sur ses talons. « Que feriez-vous ? » dit Lourdois, « car vous êtes un sage. » Molineux, que toute discussion sur le droit intéressait, resta dans la boutique, et comme l'attention des autres rend attentif, Pyrrho et Ragon, qui connaissaient les opinions de César, l'écoutèrent néanmoins aussi gravement que les trois étrangers. « Je voudrais, dit le parfumeur, un tribunal de juges inamovible avec un ministère public jugeant aux criminels. Après une instruction, pendant laquelle un juge remplirait immédiatement les fonctions actuelles des agents, syndics et juges-commissaires, le négociant serait déclaré « failli réhabilitable » ou « banqueroutier ». Failli réhabilitable, il serait tenu de tout payer. Il serait alors le gardien de ses biens, de ceux de sa femme, car ses droits, ses héritages, tout appartiendrait à ses créanciers. Il gérerait pour leur compte et sous une surveillance. Enfin, il continuerait les affaires en signant toutefois. Un tel faillit jusqu'au parfait remboursement. Banqueroutier, il serait condamné, comme autrefois, au pilori dans la salle de la bourse, exposé pendant 2 heures, coiffé du bonnet vert. Ses biens, ceux de sa femme et ses droits seraient acquis aux créanciers et il serait banni du royaume. Le commerce serait un peu plus sûr, dit Lourdois, et l'on regarderait à 2 fois avant de faire des opérations. La loi actuelle n'est point suivie, dit César, exaspéré. Sur 100 négociants, il y en a plus de 50 qui sont de 75% au-dessous de leurs affaires ou qui vendent leurs marchandises à 25% au-dessous du prix d'inventaire et qui ruinent ainsi le commerce. Monsieur est dans le vrai, dit Molineux. La loi actuelle laisse trop de latitude. Il faut ou l'abandon total ou l'infamie. Hey, « Eh, diantre, dit César, un négociant, au train dont vont les choses, va devenir un voleur patenté. Avec sa signature, il peut puiser dans la caisse de tout le monde. »« Vous n'êtes pas tendre, monsieur Birotteau, dit Lourdois. »« Il a raison, dit le vieux Ragon. »« Tous les faillis sont suspects, dit César, exaspéré par cette petite perte qui lui sonnait aux oreilles comme le premier cri de l'Alali à celle d'un cerf. » En ce moment, le maître d'hôtel apporta la facture de chevet, puis un patronnet de Félix, un garçon du café de Foix, la clarinette de Collinet, arrivèrent avec les mémoires de leur maison. « Le quart d'heure de Rabelais, dit Ragon en souriant. « Ma foi, vous avez donné une belle fête, dit Lourdois. « Je suis occupé, dit César, à tous les garçons qui laissèrent les factures. « Monsieur Grindot, dit Lourdois, en voyant l'architecte pliant un effet que signa Birotteau, « vous vérifierez et réglerez mon mémoire. Il n'y a qu'à toiser, tous les prix sont convenus par vous au nom de Monsieur Birotteau. » Pyrrho regarda Lourdois et Grindot. « Des prix convenus d'architecte à entrepreneur, dit l'oncle à l'oreille du neveu. « Tu es volé. » Grindot sortit, Molineux le suivit et l'aborda d'un air mystérieux. « Monsieur, lui dit-il, vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas entendu. Je vous souhaite un parapluie. » La peur saisit Grindot. Plus un bénéfice est illégal, plus l'homme y tient. Le cœur humain est ainsi fait. L'artiste avait en effet étudié l'appartement avec amour. Il y avait mis toute sa science et son temps. Il s'y était donné du mal pour 10 000 francs et se trouvait la dupe de son amour-propre. Les entrepreneurs eurent peu de peine à le séduire. L'argument irrésistible et la menace bien comprise de le desservir en le calomniant furent moins puissants encore que l'observation faite par Lourdois sur l'affaire des terrains de la Madeleine. Birotteau ne comptait pas y bâtir une seule maison. Il spéculait seulement sur le prix des terrains. Les architectes et les entrepreneurs sont entre eux comme un auteur avec les acteurs. Ils dépendent les uns des autres. Grindot, chargé par Birotteau de stipuler les prix, fut pour les gens du métier contre les bourgeois. Aussi, 3 gros entrepreneurs, Lourdois, Chaffaroux et Thorin, le charpentier, le proclamèrent-ils un de ces bons enfants avec lesquels il y a du plaisir à travailler. Grindot devina que les mémoires sur lesquelles il avait une part seraient payées, comme ses honoraires, en effet, et le petit vieillard venait de lui donner des doutes sur leur paiement. Grindot allait être impitoyable, à la manière des artistes, les gens les plus cruels à l'encontre des bourgeois. Vers la fin de décembre, César eut pour 60 000 francs de mémoire. Félix, le café de foie, Tanrade et les petits créanciers qu'on doit payer comptant avaient envoyé 3 fois chez le parfumeur. Dans le commerce, ces niaiseries nuisent plus qu'un malheur, elles l'annoncent. Les pertes connues sont définies, la panique ne connaît pas de bornes. Birotteau vit sa caisse dégarnie. La peur saisit alors le parfumeur, à qui jamais pareille chose n'était arrivée durant sa vie commerciale. Comme tous les gens qui n'ont jamais eu à lutter pendant longtemps contre la misère et qui sont faibles, cette circonstance vulgaire dans la vie de la plupart des petits marchands de Paris porta le trouble dans la cervelle de César. Le parfumeur donna l'ordre à Célestin d'envoyer les factures chez ses pratiques. Mais avant de le mettre à exécution, le premier commis se fit répéter cet ordre inouï. Les clients, noble terme alors appliqué par les détaillants à leurs pratiques, et dont César se servait malgré sa femme, qui avait fini par lui dire « Oh, nomme-les comme tu voudras, pourvu qu'ils payent !» Ces clients, donc, étaient des personnes riches, avec lesquelles il n'y avait jamais de perte à essuyer, qui payaient à leur fantaisie, et chez lesquels César avait souvent 50 ou 60 000 francs. Le second commis prit le livre des factures et se mit à copier les plus fortes. César redoutait sa femme. Pour ne pas lui laisser voir l'abattement que lui causait le simoun du malheur, il voulut sortir. « Bonjour, monsieur, » dit Grindot en entrant avec cet air dégagé que prennent les artistes pour parler des intérêts auxquels ils se prétendent absolument étrangers. « Je ne puis trouver aucune espèce de monnaie avec votre papier. Je suis obligé de vous prier de me l'échanger contre des écus. Je suis l'homme le plus malheureux de cette démarche. Je ne sais pas parler aux usuriers. Je ne voudrais pas colporter votre signature. Je sais assez de commerce pour comprendre que ce serait l'avilir. Il est donc dans votre intérêt de... »« Monsieur, » dit Birotteau stupéfait. « Plus bas, s'il vous plaît. Vous me surprenez étrangement. » Lourdois entra. « Lourdois, » dit Birotteau souriant, « comprenez-vous ?» Birotteau s'arrêta. Le pauvre homme allait prier Lourdois de prendre l'effet de Grindot en se moquant de l'architecte avec la bonne foi du négociant sûr de lui-même. Il aperçut un nuage sur le front de Lourdois. Il frémit de son imprudence. Cette innocente raillerie était la mort d'un crédit soupçonné. En pareil cas, un riche négociant reprend son billet et il ne l'offre pas. Birotteau se sentait la tête agitée comme s'il eût regardé le fond d'un abîme taillé à pic. « Mon cher monsieur Birotteau, » dit Lourdois en l'emmenant au fond du magasin, « mon mémoire est toisé, réglé, vérifié. Je vous prie de me tenir l'argent près de main. Je marie ma fille au petit Crotta, il lui faut de l'argent. Les notaires ne négocient point, d'ailleurs on n'a jamais vu ma signature. Envoyez après demain. » dit fièrement Birotteau, qui compta sur les paiements de ses mémoires. « Et vous aussi, monsieur, » dit-il à l'architecte. « Et pourquoi pas tout de suite ?» dit l'architecte. « J'ai la paye de mes ouvriers au faubourg, » dit César, qui n'avait jamais menti. Il prit son chapeau pour sortir avec eux. Mais le maçon, Taurin et Chafarou l'arrêtèrent au moment où il fermait la porte. « Monsieur, » lui dit Chafarou, « nous avons bien besoin d'argent. »« Eh, je n'ai pas les mines du Pérou, » dit César, impatienté, qui s'en alla vivement à 100 pas d'eux. Il y a quelque chose là-dessous. Maudit bal, tout le monde vous croit des millions. Néanmoins, l'air de Lourdois n'était pas naturel, pensa-t-il. Il y a quelque anguille sous roche. Il marchait dans la rue Saint-Honoré sans direction, en se sentant comme dissous, et se heurta contre Alexandre au coin d'une rue, comme un bélier ou comme un mathématicien absorbé par la solution d'un problème en aurait heurté un autre. Ah, monsieur, dit le futur notaire, une question. « Roguin a-t-il donné vos 400 000 francs à monsieur Claparon ?»« L'affaire s'est faite devant vous, monsieur. Claparon ne m'en a fait aucun reçu. Mes valeurs étaient à négocier. Roguin a pu lui remettre mes 240 000 francs d'écus. Nous devons... Il a été dit qu'on réaliserait définitivement les actes de vente. Monsieur Popinot, le juge, prétend... la quittance, mais... pourquoi cette question ?»« Pourquoi puis-je vous faire une semblable question ?» Pour savoir si vos 240 000 francs sont chez Claparon ou chez Roguin. Roguin était lié depuis si longtemps avec vous. Il aurait pu par délicatesse les avoir remis à Claparon et vous l'échapperiez belle. Mais suis-je bête, il les emporte avec l'argent de monsieur Claparon, qui heureusement n'avait encore envoyé que 100 000 francs. Roguin est en fuite. Il a reçu de moi 100 000 francs sur sa charge, dont je n'ai pas la quittance. Je les lui ai donnés comme je vous confierais ma bourse. Vos vendeurs n'ont pas reçu un liard. Ils sortent de chez moi. L'argent de votre emprunt sur vos terrains n'existait ni pour vous ni pour votre prêteur. Roguin l'avait dévoré comme vos 100 000 francs, qu'il n'avait plus depuis longtemps. Ainsi, vos 100 derniers 1 000 francs sont pris. Je me souviens d'être allé les toucher à la banque. » Les pupilles de César se dilatèrent si démesurément qu'il ne vit plus qu'une flamme rouge. Vos 100 000 francs sur la banque, mes 100 000 francs sur sa charge, 100 000 francs à Monsieur Claparon, voilà 300 000 francs de sifflets sans les vols qui vont se découvrir. On désespère de Madame Roguin. Monsieur Dutillet a passé la nuit près d'elle. Il l'a échappé belle, lui. Roguin l'a tourmenté pendant 1 mois pour le fourrer dans cette affaire des terrains, et heureusement, il avait tous ses fonds dans une spéculation avec la maison Nucingen. Roguin a écrit à sa femme une lettre épouvantable, je viens de la lire. Il tripotait les fonds de ses clients depuis 5 ans. Et pourquoi ? Pour une maîtresse, la belle Hollandaise. Il l'a quittée 15 jours avant de faire son coup. Cette gaspilleuse était sans un liard. On a vendu ses meubles, elle avait signé des lettres de change. Afin d'échapper aux poursuites, elle s'était réfugiée dans une maison du palais royal, où elle a été assassinée hier au soir par un capitaine. Elle a été bientôt punie par Dieu, elle qui certes a dévoré la fortune de Roguin. Il y a des femmes pour qui rien n'est sacré. Dévorer une charge de notaire. Madame Roguin n'aura de fortune qu'en usant de son hypothèque légale. Tous les biens du gueux sont grévés au-delà de leur valeur. La charge est vendue 400 000 francs. Moi qui croyais faire une bonne affaire et qui commence par payer l'étude 100 000 francs de plus, je n'ai pas de quittance. Il y a des faits de charge qui vont absorber charge et cautionnement. Les créanciers croiront que je suis son compère si je parle de mes 100 000 francs. Et quand on débute, il faut prendre garde à sa réputation. Vous aurez à peine 30%. À mon âge, boire un pareil bouillon. Un homme de 59 ans payait une femme. Oh, le vieux drôle! Il y a 20 jours qu'il m'a dit de ne pas épouser Césarine. Vous deviez être bientôt sans pain. Le monstre! Alexandre aurait pu parler pendant longtemps. Birotteau était debout, pétrifié. Autant de phrases, autant de coups de massue. Il n'entendait plus qu'un bruit de cloche mortuaire, de même qu'il avait commencé par ne plus voir que le feu de son incendie. Alexandre crotta, qui croyait le digne parfumeur fort et capable, fut épouvanté par sa pâleur et par son immobilité. Le successeur de Roguin ne savait pas que le notaire emportait plus que la fortune de César. L'idée du suicide immédiat passa par la tête de cet homme si profondément religieux. Le suicide est dans ce cas un moyen de fuir 1 000 morts. Il semble logique de n'en accepter qu'une. Alexandre Crotta donna le bras à César et voulut le faire marcher. Ce fut impossible. Ses jambes se dérobaient sous lui comme s'il eût été ivre. « Qu'avez-vous donc ? » dit Crotta. « Mon brave monsieur César, un peu de courage. Ce n'est pas la mort d'un homme. D'ailleurs, vous retrouverez 40 000 francs. Votre prêteur n'avait pas cette somme. Elle ne vous a pas été délivrée. Il y a lieu à plaider la rescission du contrat. »« Mon bal, ma croix, 200 000 francs d'effet sur la place. Rien n'en caisse. Les Ragon, Pirot, et ma femme qui voyait clair. » Une pluie de paroles confuses qui réveillait des masses d'idées accablantes et des souffrances inouïes tomba comme une grêle en hachant toutes les fleurs du parterre de la Reine des Roses. « Je voudrais qu'on me coupe à la tête, » dit enfin Birotteau. « Elle me gêne par sa masse, elle ne me sert à rien. »« Pauvre père Birotteau, » dit Alexandre, « mais vous êtes donc en péril ?»« Péril ? Eh bien, du courage, luttez !»« Luttez !» répéta le parfumeur. « Dutillet a été votre commis, il a une fière tête, il vous aidera. »« Dutillet, allons, venez !»« Mon Dieu, je ne voudrais pas rentrer chez moi comme je suis, » dit Birotteau. « Vous qui êtes mon ami, s'il y a des amis, vous qui m'avez inspiré de l'intérêt et qui dîniez chez moi, au nom de ma femme, promenez-moi en fiacre, Xandro, accompagnez-moi. » Le notaire désigné mit avec beaucoup de peine dans un fiacre la machine inerte qui avait nom César. « Xandro, » dit-il d'une voix troublée par les larmes, car en ce moment les larmes tombèrent de ses yeux et desserrèrent un peu le bandeau de fer qui lui cerclait le crâne. « Passons chez moi, parlez pour moi à Célestin. Mon ami, dites-lui qu'il y va de ma vie et de celle de ma femme, que sous aucun prétexte personne ne jase de la disparition de Roguin. Faites descendre Césarine et priez-la d'empêcher qu'on ne parle de cette affaire à sa mère. Elle doit se défier de nos meilleurs amis. » Pirot, les Ragon, tout le monde. Le changement de la voix de Birotteau frappa vivement Crottat, qui comprit l'importance de cette recommandation. Il remplit les intentions du parfumeur, que Célestin et Césarine virent avec effroi, sans voix, pâle et comme hébété au fond du fiacre.